Livre deuxième, La faute de l'abbé Mouret, chapitre 16. Lorsqu'Albine et Serge s'éveillèrent de la stupeur de leur félicité, ils se sourirent. Ils revenaient d'un pays de lumière. Ils redescendaient de très haut. Alors ils se serrèrent la main pour se remercier. Ils se reconnurent et se dirent « Je t'aime, Albine. Serge, je t'aime. » Et jamais ce mot « je t'aime » n'avait eu pour eux un sens si souverain. Il signifiait tout, il expliquait tout. Pendant un temps qu'ils ne purent mesurer, ils restèrent là dans un repos délicieux, s'étreignant encore. Ils éprouvaient une perfection absolue de leur être. La joie de la création les baignait, les égalait aux puissances mères du monde, faisait d'eux les forces mêmes de la terre. Et il y avait encore dans leur bonheur la certitude d'une loi accomplie, la sérénité du but logiquement trouvé pas à pas. Serge disait, la reprenant dans ses bras forts, « Vois, je suis guéri. Tu m'as donné toute ta santé. » Albine répondait s'abandonnant, « Prends-moi toute, prends ma vie. » Une plénitude leur mettait de la vie jusqu'aux lèvres. Serge venait, dans la possession d'Albine, de trouver enfin son sexe d'homme, l'énergie de ses muscles, le courage de son cœur, la santé dernière qui avait jusque-là manqué à sa longue adolescence. Maintenant, il se sentait complet. Il avait des sens plus nets, une intelligence plus large. C'était comme si tout d'un coup, il se fût réveillé lion avec la royauté de la plaine, la vue du ciel libre. Quand il se leva, ses pieds se posèrent carrément sur le sol. Son corps se développa, orgueilleux de ses membres. Il prit les mains d'Albine, qu'il mit debout à son tour. Elle chancela un peu et il dut la soutenir. « N'aie pas peur, dit-il, tu es celle que j'aime. » Maintenant, elle était la servante. Elle renversait la tête sur son épaule, le regardant d'un air de reconnaissance inquiète. Ne lui en voudrait-il jamais de ce qu'elle l'avait amené là? Ne lui reprocherait-il pas un jour cette heure d'adoration dans laquelle il s'était dit son esclave? « Tu n'es point fâchée ? » demanda-t-elle humblement. Il sourit, renouant ses cheveux, la flattant du bout des doigts comme une enfant. Elle continua. « Oh, tu verras. Je me ferai toute petite. Tu ne sauras même pas que je suis là. Mais tu me laisserais ainsi, n'est-ce pas, dans tes bras, car j'ai besoin que tu m'apprennes à marcher. Il me semble que je ne sais plus marcher à cette heure. » Puis elle devint très grave. « Il faut m'aimer toujours, et je serai obéissante. Je travaillerai à tes joies. Je t'abandonnerai tout jusqu'à mes plus secrètes volontés. » Serge avait comme un redoublement de puissance à la voir si soumise et si caressante. Il lui demanda « Pourquoi trembles-tu? Qu'ai-je donc à te reprocher ?» Elle ne répondit pas. Elle regarda presque tristement l'arbre, les verdures, l'herbe qu'ils avaient foulée. « Grand enfant, reprit-il avec un rire, as-tu donc peur que je ne garde rancune du don que tu m'as fait? Va. Ce ne peut être une faute. Nous nous sommes aimés comme nous devions nous aimer. Je voudrais baiser les empreintes que tes pas ont laissées lorsque tu m'as amené ici. De même que je baise tes lèvres qui m'ont tenté. De même que je baise tes seins qui viennent d'achever la cure commencée, tu te souviens, par tes petites mains fraîches. » Elle hocha la tête et, détournant les yeux, évitant de voir l'arbre davantage, « Emmène-moi, » dit-elle à voix basse. Serge l'emmena à pas lents. Lui, largement, regarda l'arbre une dernière fois. Il le remerciait. L'ombre devenait plus noire dans la clairière. Un frisson de femme surprise à son coucher tombait des verdures. Quand ils revirent, au sorti des feuillages, le soleil, dont la splendeur emplissait encore un coin de l'horizon, ils se rassurèrent, Serge surtout, qui trouvait à chaque pas, à chaque plante, un sens nouveau. Autour de lui, tout s'inclinait, tout apportait un hommage à son amour. Le jardin n'était plus qu'une dépendance de la beauté d'Albine, et il semblait avoir grandi, s'être embelli dans le baiser de ses maîtres. Mais la joie d'Albine restait inquiète. Elle interrompait ses rires pour prêter l'oreille avec des tressaillements brusques. « Qu'as-tu donc ?» demandait Serge. « Rien, » répondait-elle, avec des coups d'œil jetés furtivement derrière elle. Il ne savait dans quel coin perdu du parc ils étaient. D'ordinaire, cela les égayait d'ignorer où leurs caprices les poussaient. Cette fois, ils éprouvaient un trouble, un embarras singulier. Peu à peu, ils hâtèrent le pas. Ils s'enfonçaient de plus en plus au milieu d'un labyrinthe de buissons. « N'as-tu pas entendu ?» dit peureusement Albine, qui s'arrêta essoufflée. Et comme il écoutait, prit à son tour de l'anxiété qu'elle ne pouvait plus cacher. « Les taillis sont pleins de voix, » continua-t-elle. « On dirait des gens qui se moquent. Tiens, n'est-ce pas un rire qui vient de cet arbre ? Et là-bas, ces herbes n'ont-elles pas eu un murmure quand je les ai effleurées de ma robe ?»« Non, non, » dit-il, voulant la rassurer. « Le jardin nous aime. S'il parlait, ce ne serait pas pour t'effrayer. Ne te rappelles-tu pas toutes les bonnes paroles chuchotées dans les feuilles ? Tu es nerveuse, tu as des imaginations. » Mais elle hocha la tête, murmurant. « Je sais bien que le jardin est notre ami. Alors, c'est que quelqu'un est entré. Je t'assure que j'entends quelqu'un, je tremble trop. Oh, je t'en prie, emmène-moi, cache-moi. » Ils se remirent à marcher, surveillant les taillis. Croyant voir des visages apparaître derrière chaque tronc, Albine jurait qu'un pas au loin les cherchait. « Cachons-nous, cachons-nous » répétait-elle d'un ton suppliant. Et elle devenait toute rose. C'était une pudeur naissante, une honte qui la prenait comme un mal, qui tachait la candeur de sa peau où jusque-là pas un trouble du sang n'était monté. Serge eut peur à la voir ainsi toute rose, les joues confuses, les yeux gros de larmes. Il voulait la reprendre, la calmer d'une caresse, mais elle s'écarta. Elle lui fit signe d'un geste désespéré qu'il n'était plus seul. Elle regardait, rougissant davantage, sa robe dénouée qui montrait sa nudité, ses bras, son cou, sa gorge. Sur ses épaules, les mèches folles de ses cheveux mettaient un frisson. Elle essaya de rattacher son chignon. Puis, elle craignit de découvrir sa nuque. Maintenant, le frôlement d'une branche, le heurt léger d'une aile d'insecte, la moindre haleine du vent la faisait tressaillir comme sous l'attouchement déshonnête d'une main invisible. « Tranquillise-toi, » implora Serge, « il n'y a personne. Te voilà rouge de fièvre. Reposons-nous un instant, je t'en supplie. » Elle n'avait point la fièvre. Elle voulait rentrer tout de suite pour que personne ne pût rire en la regardant. Et hâtant le pas de plus en plus, elle cueillait le long des haies des verdures dont elle cachait sa nudité. Elle noua sur ses cheveux un rameau de mûrier. Elle s'enroula au bras des liserons qu'elle attacha à ses poignets. Elle se mit au cou un collier fait de brins de viorne si long qu'il couvrait sa poitrine d'un voile de feuilles. « Tu vas au bal ?» demanda Serge, qui cherchait à la faire rire. Mais elle lui jeta les feuillages qu'elle continuait de cueillir. Elle lui dit à voix basse d'un air d'alarme, « Ne vois-tu pas que nous sommes nus ?» Et il eut honte à son tour. Il ceignit les feuillages sur les vêtements des fées. Cependant, il ne pouvait sortir des buissons. Tout d'un coup, au bout d'un sentier, ils se trouvèrent en face d'un obstacle, d'une masse grise, haute, grave. C'était la muraille. « Viens, viens !» cria Albine. Elle voulait l'entraîner, mais ils n'avaient pas fait 20 pas qu'ils retrouvèrent la muraille. Alors ils la suivirent en courant, pris de panique. Elle restait sombre, sans une fente sur le dehors. Puis, au bord d'un pré, elle parut subitement s'écrouler. Une brèche ouvrait sur la vallée voisine. Une fenêtre de lumière. Ce devait être le trou dont Albine avait parlé un jour, ce trou qu'elle disait avoir bouché avec des ronces et des pierres. Les ronces traînaient par bouts épars comme des cordes coupées. Les lierres étaient rejetées au loin. Le trou semblait avoir été agrandi par quelques mains furieuses.